Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au lundi 7 octobre 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez là que nous commençons l'émission Club de la presse, le premier numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Merci à vous tous qui nous suivez également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous nous suivez aussi sur nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. L'homme de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et d'ailleurs, et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Uriel Enyang, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à Godson, bonjour à tous les techniciens, tous les Togolais qui nous écoutent de par le pays. Nos salutations, on leur souhaite une très bonne semaine de travail et prudence à tous les élèves chaque matin, chaque soir, surtout aux heures de pointe, que chacun fasse attention sur la route.
C'est important que chacun fasse attention sur la route. J'espère que tu as bien passé le week-end.
Je remercie Dieu à part les soucis que tout le monde maîtrise. On fait avec, on lutte, on se bat et puis au-delà de tout, on demande à Dieu de nous accorder sa grâce.
C'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Voilà, puisque quand nous avons la grâce de Dieu, on peut vraiment faire tout comme cela se doit. Alors Jacques Dakouti, j'espère que tu as besoin aussi de la grâce de Dieu. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je m'excuse pour la voix ce matin et saluer tous ceux qui sont actuellement à l'écoute, ceux qui nous écoutent dans leur bureau, et souvent les malades qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques. Je souhaite à chacun, à chacune, prendre guérison par rapport à ceux qui sont malades. Il nous reste encore 3 mois pour la fin de l'année. Ma prière est que Dieu soit avec chacun d'entre nous et ce qu'on n'a pas pu faire pendant ces 10 mois, les 3 mois restants, que Dieu nous aide, que sa grâce nous vienne en aide pour que nous puissions accomplir le désir de notre cœur avant la fin de cette année.
D'accord.
Une fois encore, ceux qui sont dans le désespoir, je leur encourage ce matin que le seul espoir, c'est de se placer entre les mains de Dieu et continuer à prier, travailler, et la réussite viendra.
La réussite viendra, Dieu merci. Déjà, tu as cité le travail et aussi la prière. Comme le dira l'autre, c'est ora et labora. Et il faut travailler, mais aussi également prier, compter sur Dieu. Alors, Gosson Keto Magnan, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Hormis ce qui ne va pas, le reste, je rends grâce.
D'accord, tu as bien passé quand même le week-end.
Bien passé, je suis toujours vivant.
C'est l'essentiel.
Je veux saisir l'occasion pour d'avoir adressé mes salutations à mes proches, aux lecteurs, aux fidèles lecteurs du journal Liberté et les auditeurs de Canal FM. Ensuite, à tous les citoyens de tous bords politiques.
Parmi les auditeurs, il y a aussi des fidèles. Et je sais que tu as cité les fidèles à l'heure de Liberté, mais il y a aussi des fidèles aussi parmi les auditeurs à l'heure de Canal.
Oui, mais tu sais, Pascal, avec cette, si je veux parler des fidèles de Canal, oui, ça pourrait constituer un débat parce que personnellement je me pose la question de savoir comment certains s'y prennent pour chaque fois rentrer en ligne pendant que d'autres n'y arrivent pas, parce que personnellement j'ai tenté une seule fois avec je ne sais plus quelle chaîne,
ça a été la croix et la bannière,
j'ai fait ça 64 ou 65 fois avant que ça ne réussisse. Donc c'est pour dire que ceux-là qui sont fidèles et qui arrivent toujours à rentrer en ligne, il faudrait qu'ils partagent leur secret avec les autres auditeurs.
Justement, quand on parle du secret, je pense que Pelé, Madame Essi, Basile, il y a ces auditeurs-là qui, souvent, je ne sais pas personnellement comment ils font aussi Saint-Gor pour rentrer, aussi. Saint-Gor, voilà, et pour rentrer en ligne.
Papa
Sibiti. Voilà. Voilà.
Nyamavo,
bien sûr.
On se demande comment ils s'y prennent.
Peut-être qu'ils vont partager leurs secrets avec nous. On organisera peut-être une émission où on va les inviter, où ils vont partager alors ce secret avec nous. Ça nous fera tellement plaisir.
Surtout Damessi qui vient toujours en dernière position. On dirait que c'est vraiment de la magie. Elle laisse tout le monde parler. Et puis, elle arrive avec son concept de il faut alterner. Et puis
il ne faut pas oublier également Gado.
C'est
hein.
sa manière de voir aussi. Gado, bien sûr. Ah, Monsieur Gado aussi, bien sûr. Et nous saluons tout ce beau monde hein, qui nous suivent actuellement. Et aussi, ceux qui nous appellent souvent, ça nous fait toujours plaisir quand nous vous écoutons, et parce que c'est votre manière aussi d'apporter votre plus à ce débat citoyen que nous animons chaque jour, de lundi à vendredi, et c'est à partir de 11h, vous savez très bien le rendez-vous. Alors, l'autre qui connaît bien aussi le rendez-vous, c'est Didier Assoba, le fils de Couvé. Bonjour Didier.
Bonjour Pascal, bonjour auditeurs, auditrices de Canal FM, bonjour à mes aînés qui sont en studio et qui connaissent bien les secrets des auditeurs qui entrent en ligne.
Alors, tu as préféré être en veste verte et aussi en blanc
non.
ce matin?
Pascal, il faut être juste.
Mais attends, d'accord, soit juste.
Le monsieur, il est bien tiré.
C'est ce que je suis en train de voir.
Il est monté sur 131, je ne cesse de l'admirer.
Mais c'est vrai que c'est souvent sa spécialité. Quand je le connais, je sais que c'est quelqu'un qui s'habille aussi très bien, très élégamment. Alors vous êtes élégant, hein, Didier, dans votre accoutrement.
je fais mon latin, mais je pense que c'est relatif. Il y a chacun a son style d'habillement et son style de vie. Je pense d'ailleurs que tous ici sont élégants. J'admire ce que tu as porté. J'admire mon ami Uriel dans sa chemise de couleur bleue. Ah, bon, je ne suppose pas que c'est l'autre bleu, hein. C'est le bleu naturel.
Et moi, il y a un bleu qui n'est pas naturel, artificiel.
Bon, il y a un bleu, qu'on attribue à tout le monde, à tort et à travers des fois. Donc voilà. Et c'est ce bleu-là dont je voulais parler. Et il y a l'aîné Jacques également qui est dans son style habituel, avec le pagne bien taillé à sa mesure pour sa spécialité. Et donc, oui, l'élégance, c'est relatif. Et nous voulons que la vie soit élégante pour chacun de nous cette semaine, durant tout ce mois et pour le reste de nos vies. Je crois que c'est ce qui compte le mieux.
Oui, justement, c'est ce qui compte le mieux, que la vie soit élégante vraiment pour tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Mais la vie n'est pas élégante alors chez quelqu'un qui n'est plus alors de ce monde, bien sûr. Et je pense que nous avons tous ensemble appris l'information hier. Et Méga Info, Uriel, vous avez titré hein, sur... Et justement, cette personne, ce matin, il s'agit alors de Pré Simfé Théou. Vous écrivez Pré Simfé Théou, grand bienfaiteur, l'incarnation des valeurs humaines. Alors, on connaît M. Pré qui a occupé des postes, hein, des postes ministériels, bien sûr, dans ce pays. Et il est décédé hier. Et l'information nous est parvenue. Uriel, et vous titrez bien sûr sur la personne, vous dites grand bienfaiteur, l'incarnation des valeurs humaines, c'est ça?
C'est cela. Je ne sais pas concrètement, je vais réagir en tant que qui, en tant que journaliste, ou en tant que très proche de ce grand homme qui nous quitte de cette façon. Mais quand même, il faut dire qu'il a un peu souffert, il a souffert avant de partir. Mais sur sa vie, Monsieur Simfé Théou ne sait que faire du bien. L'homme ne sait fait que faire du bien. Même pour les rares fois où les journalistes ont eu la chance de le croiser, surtout lorsqu'il était directeur de cabinet. Au niveau de la primature. Je pense quand même que les journalistes peuvent vous témoigner de l'attitude de cet homme. Bon, il est en tout cas quelqu'un qui incarne les valeurs humaines. Il incarne vraiment les valeurs humaines. Là où il arrive, il y a de la tristesse. Avant son départ, soyez-en sûr, vous allez sourire. Vous n'allez pas sourire parce qu'il vous a donné quelque chose, mais il a exploité son intelligence pour ramener le sourire avant de quitter. Sur le plan social, sur le plan politique, plan familial, l'homme est un particulier. Donc aujourd'hui, ou depuis hier, il a quitté ce monde, le monde des vivants. Et d'abord, la préfecture de l'Abina a perdu. Depuis hier, je ne sais pas comment les gens se sentent là-bas, mais si vous vous retrouvez dans les groupes, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux où les gens de cette préfecture se retrouvent, mais il faut avouer que vraiment c'est une grande tristesse, c'est une tristesse totale, parce qu'une fois encore, la préfecture vient de perdre une grande personnalité qui faisait l'unanimité, qui réunissait, qui jouait le rôle qu'il faut jouer, comme je l'ai dit au départ. Il ne sait que faire du bien. Donc, vous savez, son nom, Simfekio Ankabie de la Bina, ça signifie la mort n'a pas d'amis. C'est ça, c'est ça le sens. Oui, c'est ça le sens. La mort n'a pas d'amis. Donc, ça veut dire que la mort peut frapper là où elle veut, sur qui elle veut, elle peut frapper à tout moment. Aujourd'hui, c'est son tour. Mais franchement, c'est une perte énorme. C'est une perte. Vous l'avez connu. Tous les journalistes l'ont connu. Tous les Togolais l'ont connu. Partout il est passé. On dirait de sa nature particulière, ce n'est pas quelqu'un qui a eu envie de s'enrichir, quelqu'un qui a eu envie de dominer les autres. Quelqu'un, non. Partout il est passé, il a été caractérisé par le travail. Le travail, rien que le travail. Et quand vous vous retrouvez avec lui, son premier conseil, c'est le travail. Chacun de nous peut raconter une petite histoire sur sa relation avec le ministre Pré. Moi qui suis assis ici, si je dois raconter mon histoire, ça remonte même depuis 2005. Mais le gars est extraordinaire, très sympa. Je me rappelle, juste pour dire, par rapport à l'université de Kara, les étudiants qui ont fait la FASEG depuis 2004-2003 jusqu'à l'année où, bon, il se sentait un peu fatigué, il n'intervenait plus puisque c'est un enseignant-chercheur. Mais tous ces étudiants-là peuvent témoigner quand le monsieur vient, il finit sa mission, il prend ses primes pour distribuer aux étudiants et il repart. C'est un homme extraordinaire. Donc aujourd'hui, on ne peut que demander à Dieu de lui accorder le repos éternel, de veiller sur le reste de sa famille, de veiller sur sa famille politique, sa famille préfectorale, sa famille mondiale, et de garantir une bonne vie pour tous les Togolais.
D'accord. Jacques, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a mis des journalistes. Et quand il rencontre les journalistes, il les appelle souvent les paparazzi. Et il aime toujours partager des histoires, telles que Urel l'a dit tout de suite. Il aime souvent partager des histoires avec des journalistes. Et surtout qu'il a eu à travailler d'abord avec l'ancien président Gnassingbé Eyadema. Et tout ce qu'il a eu à faire comme expérience avec Gnassingbé Eyadema, il aime souvent partager cela avec les journalistes. Je ne sais pas si vous connaissez aussi la personne.
Bien sûr. Vous savez, après, comme vous l'avez si bien dit, il a travaillé avec Eyadema d'abord, après le président fort Gnassingbé. Et vous savez, il a démarré d'abord comme directeur de cabinet, je crois. Il était au ministère du Plan. Après, il a occupé même le portefeuille. Après, il était également le ministre de l'enseignement, je crois, technique. Après, il est allé comme directeur de cabinet au niveau du ministère, au niveau de la primature. Effectivement, c'est au niveau de la primature que personnellement, moi, je l'ai connu. Pour ceux qui avaient l'habitude d'aller chez lui les matins, le monsieur ne se privait pas de vous servir soit un café ou un thé. Pour ceux qui étaient amoureux de l'alcool et tout, c'est Racine. C'est les racines qu'il servait aux gens. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste de l'alcool, mais je sais que la plupart avec certains, quand souvent j'étais avec lui, c'est ce qu'il servait aux gens. Alors, c'est pour vous dire que C'est un monsieur sympa, comme Uriel l'a si bien décrit. Et voilà quelqu'un qui a eu un parcours élogieux, ça il faut le reconnaître, et qui a semé également de bonnes graines pour une petite histoire. Pour ceux qui sont dans son quartier, pourront vous le dire. Hein, ceux qui connaissent un peu son domicile et ses cohabitants pourront vous parler effectivement de lui. L'important pour nous, Pascal, vous savez, pour nous sur cette terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que, avant notre départ, que nous puissions laisser l'héritage. Pas de l'argent, hein. L'héritage où les gens pourront apprécier un jour pour dire que, écoutez, quand Pascal était sur cette terre, voilà ce qu'il a fait pour les uns, voilà ce qu'il a fait pour les autres. C'est ça le plus grand travail, c'est ça l'héritage également qu'on peut laisser aux gens. C'est-à-dire, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous vivants. Ce n'est pas après la mort qu'on va s'aimer. Parce que si tu es dans un quartier, tu as les moyens, et quelqu'un qui est à côté de toi n'arrive même pas à manger une fois par jour, tu vois que vraiment tu n'as pas semé une bonne graine. Je crois que pour ceux qui connaissent quand même Pré, M. Pré a joué sa partition. Le reste maintenant, c'est pour nous. Il faudrait aujourd'hui que nous les vivants, lorsque nous sommes là et lorsque nous allons partir, qu'on puisse dire quand même que tu as accompli une chose avant de partir. Comme le dirait le pasteur qui est à côté de moi, pourra également appuyer. L'apôtre Paul a dit qu'il a combattu un bon combat. Il a achevé la course. Désormais, c'est la couronne de vie qu'il attend. Donc, je crois que combattons le bon combat sur cette terre, aimons-nous les uns les autres lorsque nous sommes vivants. Et si quelqu'un est à côté de nous, que nous sentons le besoin de l'aider, il faut qu'on le fasse. Vous voyez, comme je l'ai dit, Pascal, vous ne pouvez pas, par exemple, être pas dans une maison à étage, lorsque vous vous douchez, de voir quelqu'un qui est dans une piole, qui est en train de préparer, ou soit en train de faire. Vous voyez, quand souvent je compare, je vois cette image, je dis, mais l'homme a besoin de l'autre. Et l'autre aspect, il faut reconnaître que nous tous, nous avons besoin des uns et des autres sur cette terre. Vous allez dans certains foyers, riches, peut-être le riche n'a pas d'allumette. Il est obligé de sortir pour aller vers le pauvre pour lui demander de l'allumette. Vous allez peut-être dans la maison du riche, on vous dira peut-être qu'il n'a pas d'aiguille. Le riche est obligé d'aller vers le pauvre. Donc, vous voyez, c'est une chaîne. Comme je l'ai dit, Pré a fait ce qu'il pouvait faire. Nous remercions vraiment Dieu, parce qu'il faut reconnaître que c'est Dieu qui l'a repris. C'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Donc, tout ce que nous pouvons faire, il a laissé une progéniture. C'est vrai que sa femme est partie, ça fait 3 ans. Les enfants sont là. Il faudrait aujourd'hui que les vivants puissent effectivement soutenir les enfants qui sont là pour marteler son passage sur cette terre pour tous ceux qui l'ont aimé.
D'accord. Et disiez, le ministre Pré, on dirait qu'il a fait sa part. Et c'est à nous plutôt de continuer à faire notre part aujourd'hui.
Oui, personnellement, je n'ai jamais rencontré le ministre Pré dans un cadre privé et pour avoir des échanges directs avec lui. Mais j'ai eu la chance de le croiser à des événements sur des lieux de reportage. Et c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui a le sens de l'ouverture, de la proximité. Il ne vous connaît peut-être pas personnellement, mais il n'a pas de dédain. Il ne prend pas des gens de haut. Il descend à votre niveau, il parle avec monsieur tout le monde et il donne même des rendez-vous à des gens. Il dit, mais vous pouvez passer à mon bureau tant que vous le pouvez. Même si personnellement, moi, j'ai jamais eu la chance ou le temps d'y aller. Mais c'est quelqu'un, si vous voyez son parcours de vie, il est le témoignage de la simplicité, de l'humilité. Parce que je n'ai jamais senti de l'arrogance dans ses prises de parole. Comme j'ai dit, il n'a jamais pris quelqu'un de haut. Il a mené sa vie comme il fallait mener une vie. Il est certes du pouvoir, mais on l'a vu côtoyer beaucoup de personnes. Il y a même des faits dans lesquels on a dit on ne devrait pas s'approcher des gens, mais monsieur le ministre Pré s'en foutait pas mal. Il avait sa façon de voir la vie et de voir les choses. Et c'est peut-être pour des jours comme aujourd'hui. Il a mené une vie de façon humaine simplement. Uriel parlait de l'humanité. Il a mené sa vie de façon humaine. Et il a travaillé avec Yadema. On a dit qu'il était un des barons du pouvoir, mais il n'a jamais, on ne l'a jamais vu dans des positions de baron. Il a travaillé depuis longtemps avec le chef de l'État actuel, mais il n'a pas une position, enfin, il n'a pas pris une position pour dire mais nous gérons le pays et tous les autres qui s'en suivent. Il ne se cachait pas et il se rendait accessible pour tous ceux qui ont envie de le voir et de discuter avec lui. Il faisait partie des ministres qui disaient que leur numéro était partout, y compris au grand marché de Lomé, que tout le monde pouvait en avoir. Et si vous les appelez, vous leur écrivez, ils répondent. Ce n'est pas des gens qui... voilà, naturellement, il a fait sa part. Ministre, toute sa vie, bon, depuis qu'il était revenu au pays et qu'il a commencé à servir, donc l'État togolais, ministre du plan, ministre de l'enseignement technique, enseignant, chercheur, puis directeur de cabinet de la primature de 2008 jusqu'à 2020. Et puis, il a pris les choses qui se sont passées en 2020 sportivement. Heureusement qu'il a été rappelé à la présidente de la République en tant que conseiller, poste qu'il ou position qu'il occupait jusqu'à sa mort aujourd'hui. Et donc, oui, ma foi, il a vécu sa vie. Il a fait sa part qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, les gens ne gardent que de très bons souvenirs de lui et pas de mauvais souvenirs. Et donc, je pense que c'est ce que nous disons, c'est le sens de la vie même que M. Préa a vécu. Et c'est ce qui est intéressant. Si maintenant, nous qui sommes vivants, nous pouvons prendre l'exemple sur lui et apprendre de ses actes pour savoir comment nous menons nos vies, parce que à la fin de l'histoire, à la fin du parcours, ce sera ce que nous avons fait de bien qui comptera.
D'accord, c'est le pasteur qui a parlé. Alors, oui, bien sûr. Déjà, quand on écoute ce témoignage sur la personne de M. Pri, on comprend tout simplement que c'est un grand homme que le Togo vient de perdre.
Hein. Tu sais, Pascal, des grands hommes, le Togo en regorge. Il y en a qui sont toujours vivants, mais souvent anonymes. Et quand vous prenez la peine de revisiter leur passé, ou de la manière dont ils se sont acquittés de leur travail, vous vous rendrez compte que la seule différence, c'est qu'il y a certains qui sont sous la lumière et dont on est obligé de parler quand ils ne sont plus de ce monde. Je ne vais pas citer de nom autrement, je donnerai l'exemple de mon père, M. Gameli Ketomanyan, qui a été au tourisme jusqu'à sa retraite. Son passé témoigne pour lui. Maintenant, pour revenir à la personne de M. Pré, j'abonderai dans le même sens que Didier. Ni en privé, ni en public, bizarrement, lui et moi, on n'a jamais échangé. Et pour appuyer ce que Uriel a dit tout à l'heure, comme quoi il a souffert, pour avoir vu une de ces images qui date d'avril 2023, j'ai pu confirmer que le monsieur a souffert.
Même une de ces images qui date de juin 2024.
Ah.
De juin 2024 dernièrement.
Donc, c'est...
Une de ces dernières sorties publiques.
Je n'aime pas trop me pencher sur ceux qui sont passés de l'autre côté, mais juste dire que la terre lui soit légère.
Justement, c'est l'essentiel, que la terre justement lui soit légère. Alors, nous allons aborder un autre sujet, et ce sujet, c'est Togo Breaking News hein, qui nous donne ce sujet. Disait, alors, nous allons nous intéresser à l'éducation et à la citoyenneté. Vous écrivez Togo, l'hymne national de nouveau obligatoire dans les écoles. Alors, je sais que j'ai lu l'article et c'est justement cette note ou cette circulaire des directeurs régionaux, hein, aux chefs d'établissement et aussi aux inspecteurs, pour ce qui concerne surtout l'hymne national qui doit être maintenant obligatoire dans les établissements scolaires. Et ceci, je pense que c'est pour aller vers ce que nous appelons la citoyenneté et le civisme, surtout au niveau alors de nos élèves.
Oui, on ne peut pas construire un État avec des citoyens qui ne maîtrisent pas les valeurs du pays et qui ne maîtrisent pas les emblèmes du pays. Je pense que toi et moi, quand nous étions à l'école, au cours primaire, mais on était même forcés déjà dès le CP, CEP, CP1, CP2, à connaître l'hymne national. Même si on chantait mal, À l'époque, on ne maîtrisait pas les mots, mais il fallait quand même chanter l'hymne national. Et des fois, chaque jour, on est au Mans, et c'est on désigne les classes, et chaque classe sait que aujourd'hui c'est tel qui entend l'hymne national, et ce qui a fait que jusqu'à la fin de notre parcours scolaire, on a maîtrisé l'hymne national, ne serait-ce que au moins le premier ou le deuxième couplet et tout ça. Mais on s'est rendu compte que au fil des années, dans certains établissements, il y avait même plus le mât. Et puis, au fil des ans, on a constaté qu'il y a plusieurs citoyens togolais qui ne maîtrisent même pas l'hymne national, qui ne connaissent rien de l'hymne national. On peut l'observer lors des différentes cérémonies officielles, publiques, même des fois lors de je ne vais pas dire du match des éperviers, des fois, parce que des fois, on va dire là, c'est des binationaux, ils sont habitués à d'autres choses, mais le constat était dressé de ce que on était en train de fabriquer des Togolais de futur qui ne maîtrisent rien du Togo. Or, l'ADN du Togo se trouve des fois dans les emblèmes. Il n'y a pas que le drapeau, il n'y a pas que la devise, mais dans l'hymne, il y a les mots, il y a les phrases, il y a des choses qui forgent la personnalité du Togolais que nous devons être ou que nous sommes, ou que nous sommes appelés à devenir au final. Et donc, ce sera dangereux d'avoir des citoyens demain qui ont la charge de l'État, qui ne maîtrisent rien de l'emblème de l'État et qui ne sont même pas interpellés par des mots et de l'hymne national. Et donc, ma foi, c'est assez intéressant de ce que, dans ce qu'on a constaté comme étant une crise de citoyenneté, les autorités puissent réagir et qu'au niveau du ministère de l'Éducation, du ministère des enseignements primaires et secondaires, ben, tous les autres départements qui ont en charge l'éducation, et on puisse donner des ordres aux directeurs régionaux de l'éducation pour que on veille à ce que dans tous les établissements publics, publics comme privés d'ailleurs, l'hymne national soit de mise et que tous les citoyens togolais, qu'ils soient togolais ou pas de souche, mais une fois qu'ils sont au Togo, qu'ils vivent au Togo et qu'ils ont opté pour l'éducation du Togo, qu'on puisse leur transmettre l'ADN du Togo qui se trouve dans l'hymne national. Et donc c'est pour ça qu'on a dû imposer maintenant que l'hymne national soit obligatoire, exécuté dans chaque classe ou tout au moins au niveau du Mans, chaque matin, avant que les cours ne commencent, comme ça avait été de mise de par le passé, les années antérieures. Uriel ne me démentira pas. Et donc c'est une très bonne chose qu'on ait pu arriver là. Et je pense que ça devra faire partie de toutes les actions qui sont maintenant engagées pour que l'éducation qu'on donne aux citoyens togolais soit une éducation de qualité, une éducation qui permette à ce qu'on forge le Togolais de demain ou le meilleur Togolais que nous voudrons demain. Et c'est des initiatives à saluer.
Et c'est vrai que Didier parlait de cette crise de citoyenneté aujourd'hui, et au niveau même d'ailleurs des citoyens que nous sommes, les citoyens togolais que nous sommes, de telle enseigne que nous ne donnons même plus du respect quand même à nos valeurs républicaines. Alors finalement, à quoi cela est dû? Parce que il faut justement chercher la source avant quand même de trouver aussi une solution à cela.
Non. Vous savez, nous avons l'habitude de le dire ici, tout part de la famille, hein, tout part de la cellule familiale. La disparition de nos valeurs citoyennes au fur et à mesure que les générations changent, s'alternent, ça part de la famille. Je voulais mettre l'accent sur cette histoire de l'hymne national. En réalité, personne n'a jamais décrété l'arrêt de l'hymne avant l'entrée des classes. Personne ne l'avait décrété. Nous tous ici, qu'est-ce qu'on a vécu au cours primaire? On monte les couleurs, on chante l'hymne, après on joue les tam-tams, on chante, on va en classe, jusqu'à ce que votre enseignant arrive et il dit c'est bon, vous vous asseyez, il peut vous dire debout, vous vous levez, assis. Et c'était la discipline totale. C'est dans ça que nous avons grandi. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes tous disciplinés ici. Vous allez voir que ceux qui n'ont pas vécu cette formation, cette éducation, si vous vous retrouvez sur un plateau avec lui, c'est lui qui va semer le désordre. C'est ce que nous, on a connu. Et personne n'avait décrété l'arrêt de l'hymne. À un moment donné, certains chefs d'établissement, volontairement, ont décidé de chanter l'hymne le lundi matin et le vendredi matin. C'est comme ça que ça a commencé. Comme si la décision venait du ministère
ou bien de l'État. Non, ce sont des gens volontairement qui l'ont décidé. Et cette pratique a envahi pratiquement tous les établissements. Au niveau des privés, carrément, c'est le lundi, vous le voyez, chanter. Après ça, même, il n'y a même pas l'ordre pour entrer dans les classes. Non, il n'y a même pas de l'ordre. Après, la montée des couleurs, c'est fini. Chacun marche comme il veut. Une fois encore, c'est pourquoi quand vous vous retrouvez avec ces gens, des personnes qui ont reçu de tels types de formations, vos comportements ne seront pas les mêmes. Ne soyez pas surpris. Moi, je suis un peu surpris. Je salue cette mesure. Mais il fallait qu'on nous précise que c'était une dérive de certains responsables qui finalement a emballé tout le monde. Sinon, on n'a jamais décrété l'arrêt de l'hymne. On n'a jamais dit à un chef d'établissement, à partir d'aujourd'hui, n'entonnez pas l'hymne mardi, mercredi, jeudi. Non, personne ne l'a dit. Mais c'est comme ça, c'est venu et puis ça a emballé tout le monde. Aujourd'hui, si vraiment l'autorité peut prendre les dispositions, que ça ne s'arrête même pas au niveau de l'hymne. Qu'on entonne l'hymne après la montée des couleurs et qu'on remette les orchestres comme nous on l'a vécu, même au village. Il y avait ça, très beau. On jouait et puis on marquait les pas. Si tu ne marques pas bien les pas, l'enseignant de loin t'interpelle, il crie ton nom. Et tu as honte en même temps pour revenir à l'ordre. Vous voyez, aujourd'hui, on a tout perdu. Les élèves, même déjà au CM2, CM1, CM2, c'est comme ils se disent, mais l'enseignant, c'est qui pour crier, pour me donner l'ordre? Mais non, il t'éduque. Il n'est pas en train de te faire du mal. Vous voyez, nous avons respecté tout ça là. Aujourd'hui, nous sommes corrects. Même sur la route, quand on te voit, on sait que tu es correct. Il y a certains actes que tu ne peux pas poser. Il y a certaines paroles que tu ne peux pas prononcer. Cela est dû à notre éducation. Et non seulement l'éducation de la... Moi, je me rappelle au cours primaire, nous, on était au village, quand tu commets une petite erreur au niveau de la famille, le lendemain matin, le papa est le premier à aller à l'école pour signaler ça à ton enseignant. Et on te fait sûrement que non, voilà, papa l'a envoyé ne pas aller, maman l'a envoyé ne pas aller. Bon, quand on dit fessé, ce n'est pas une torture comme on l'entend, ce que je combats ici amèrement. Non. Donc, il faut encourager les autorités à revenir là-dessus. Il faut qu'on revienne nécessairement là-dessus. Sinon, là où est en train d'aller notre société, Dieu seul sait.
D'accord. Jacques, c'est vrai que la question qui se pose par rapport à notre société, c'est de savoir quel genre de société nous voudrons pour demain. Parce que, allez, quand on voit même d'ailleurs les élèves qui ne craignent même plus l'enseignant, et quand déjà il y a un certain nombre même d'ailleurs de valeurs républicaines qu'on n'observe plus, qu'on ne respecte plus, là, il y a justement matière à s'interroger.
Oui, d'abord, il faut fouiller pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Avant, ce n'était pas comme ça. Pourquoi nous sommes en train de vivre cette situation aujourd'hui? Il faut toujours regarder quand on conduit, tenu compte du rétroviseur. C'est ça. Vous avez vu les mutations que nous avons eues dans ce pays par rapport même au changement de l'hymne. Vous savez, ce n'est pas l'hymne là qu'on chantait avant. On a dû également changer l'hymne. Dites-vous que l'ancien hymne qu'on chantait avait ses partisans. L'hymne qu'on chante aujourd'hui également a ses partisans. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Eh bien, Jacques, quand on veut créer, enfin, on veut construire une nation, est-ce que déjà chacun de nous ne doit pas se retrouver plutôt à l'ordre de ce changement?
J'ai dit, il faut toujours... qu'est-ce qui s'est passé? C'est à travers le passé qu'on construit le présent.
Tout à fait.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les gens n'aiment plus respecter personne. D'aucuns vous diront que non, que c'est une démocratie mal comprise. C'est ce que d'aucuns vont vous dire. Sinon, Pascal, en quoi ça générait que les matins, avant d'aller en classe, que les enfants se retrouvent au mât, qu'on monte le drapeau, qu'on chante l'hymne, avant de rentrer en classe? Qu'est-ce qui gêne? Jusqu'à ce que l'autorité nous rappelle encore ça. Ce qui veut dire que quelque part, il y a une rupture. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui a créé cette rupture jusqu'à ce que l'autorité ne revienne encore en charge pour demander à ce qu'on reprenne ça. C'est ça le problème. Moi, je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, les valeurs ne sont plus respectées. Hillel a dit que non, bon, qu'entre-temps, si tu fais quelque chose, on peut te frapper aux mains. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible encore de corriger un enfant aux mains? Est-ce que ça se fait? L'autre aspect même, l'éducation dans le temps. Vous savez, quelqu'un peut te voir en route, tu commets un forfait, il peut te corriger.
Puisque l'enfant était pour la société.
Avant d'aller parler à tes parents. Mais aujourd'hui, si tu le fais, mais c'est une convocation qui t'attend. Voilà le problème. Voilà les valeurs aujourd'hui que nous avons perdues, dont il faut encore reprendre ces valeurs-là. C'est important. Il faut qu'on puisse reprendre ces valeurs. Vous voyez aujourd'hui les pays, les trois pays qui s'organisent. Quand on parle par exemple des pays de l'AES, vous avez vu aujourd'hui, les gens veulent prendre leur autonomie, même sur...
Ils s'organisent.
Oui,
les trois pays. L'AES, ils s'organisent.
Donc vous voyez que, même quand vous voyez même leur tenue scolaire, aujourd'hui ils sont en train d'aller vers le local. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est-à-dire que les gens veulent reprendre leur identité. Donc il est important aujourd'hui que nous puissions voir effectivement l'identité que nous avons perdue dans le pays. Les valeurs qu'on a perdues. L'État ou bien l'autorité n'a pas besoin de venir nous rappeler certaines choses. Ce n'est pas à l'État, à l'autorité de le faire. Mais comme on l'a perdu, l'autorité est obligée de le faire. Mais en le faisant, est-ce que ceux à qui on donne par exemple ces instructions de pouvoir le faire, est-ce que les gens le font? Je crois que c'est Didier qui parlait des binationaux lorsqu'on chante l'hymne. Mais tout ça, là, ça doit s'apprendre. Prenez souvent les autorités. Prenez nous-mêmes, ensemble Togolais, quand on chante l'hymne, au stade par exemple, ou bien au cours des manifestations, combien vous voyez chanter? Combien? Les gens ne connaissent même pas l'hymne national. Aujourd'hui, je parie que si on va à un concours et on dit à un Togolais de copier les couplets de l'hymne national, ne serait-ce que seul sujet, les gens vont échouer. Je vous assure, les gens vont échouer. Et quand nous qui sommes assis même ici, là, si on nous dit de chanter le premier jusqu'au dernier couplet, on ne pourra pas. C'est-à-dire qu'il faut...
L'ancien ou le nouveau?
Le nouveau. Certains ne pourront pas. Donc c'est pour vous dire que quelque part, c'est-à-dire qu'on a perdu. Vous comprenez? Et d'aucuns vous diront, oh, c'est quoi même? Ça ne fait rien. Mais ça fait. Ça fait. Parce que, Pascal, regardez, quand on va souvent aux invitations de la fête de l'indépendance des États-Unis, à leur ambassade, quand on entend l'hymne américain, vous voyez comment les Américains font. Vous voyez. Donc je crois que c'est des valeurs qu'il faut encore apprendre à nos enfants. C'est une bonne chose que le ministre Kokoroko, le fait qu'il a sorti cette note, c'est bon. Mais il faudrait maintenant que ceux à qui il a donné ces instructions puissent les exécuter.
D'accord. Gosson, c'est vrai que quand on parle alors de cette crise de citoyenneté, même nous adultes, et au-delà même d'ailleurs de cela, même au niveau des autorités, est-ce qu'on n'a pas l'impression que même au niveau même de l'autorité, il n'y a pas ce respect aussi de la chose publique?
C'est à croire que tu aurais lu dans mes pensées, Pascal. J'ai l'impression. Celui-là qui a pris la note pour exiger désormais le chant de l'hymne national, l'idéal pour moi aurait été que, avant de prendre la note, qu'il soit sur devant un écran télé, qu'il chante les trois couplets sans papier, pour qu'on sache que lui-même, il maîtrise la matière. Parlant des autorités, ça c'est soit dit en passant. Quand on prend notre devise, travail, liberté, patrie, je veux classer le fait de maîtriser l'hymne national dans la rubrique patrie. Le travail, je veux utiliser les phrases de Jacques qui disait tout à l'heure que dans quelques pays de l'AES, on a demandé que les enfants soient vêtus de tenues cousues localement. Sur ce plan, c'est l'économie qui va en bénéficier. Ce ne serait plus des tissus importés. Je laisse ça de côté. Notre devise, je répète, c'est travail, liberté, patrie. Aux enfants, on veut apprendre l'hymne national. On doit aussi leur apprendre ce qu'est la liberté, Pascal. Parce que si nous terminons cette émission tout à l'heure, et un élève m'interpellait dans la rue pour me demander, mais vous dites que l'hymne, la devise, c'est travail, liberté, patrie. Comment se fait-il que vous avez permis qu'on porte la main sur un parlementaire dans un lieu fermé? Tu penses que je vais... Quelle réponse tu penses que je vais pouvoir apporter à cet enfant-là? À qui on voudrait qu'il apprenne l'hymne national? Il n'y a pas que l'hymne. Et au-delà de le fait de maîtriser la devise, il faut qu'on mette en pratique cette devise-là. Travail, liberté, patrie. Quand je parle de liberté, c'est pas du libertinage. C'est pas d'aller à l'encontre des tests. Non. Mais durant que les tests n'interdisent pas quelque chose, il faut que la loi protège ceux qui veulent agir dans le sens de ce que la loi n'interdit pas. Une devise, d'accord. Mais encore faudrait-il que... l'hymne, d'accord. Mais encore faudrait-il que nous mettions en pratique notre devise qui est, je le répète, travail, liberté, patrie.
D'accord. Je veux rester avec toi pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Gosson. Oui. Alors, je reviens vers toi. Alors, c'est vrai que au-delà même d'ailleurs des mots, au-delà de ce que nous chantons, au-delà de ce que nous disons comme devise, est-ce que ce ne sont pas des valeurs plutôt à pratiquer?
Oui, les mots ont été tirés des valeurs ou des visions que des pères fondateurs ou tous les noms qu'on voudrait les affubler ont voulu pour le pays. Je crois que c'est les valeurs. Et donc, aujourd'hui, si nous pensons que, et nous constatons qu'il y a cette crise de citoyenneté, et conjuguée à ce que décrit tout à l'heure Godson, raison de plus alors qu'on puisse apprendre aux citoyens d'aujourd'hui et qui auront la charge de notre État demain, la gestion d'un certain nombre de choses dans le pays demain, qu'on leur apprenne ces valeurs-là dès aujourd'hui, pour que dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans, ceux qui auront à gérer la chose publique aient en tête qu'ils doivent gérer les choses de telle façon à ce qu'il y ait du travail et qu'eux-mêmes ils se mettent déjà au travail, à ce qu'il y ait la liberté, et en garantissant la liberté pour tout un chacun, dans le respect des règles et des lois et du pays, et ensuite à ce que la patrie soit sauvegardée. Et donc, pour moi, oui, ce que les uns et les autres font aujourd'hui, qui peut sembler contraire à ces valeurs que nous promouvons, ça peut être un fait, ça peut être des décisions politiques qui n'ont rien à voir avec les valeurs d'un État. Et donc, aujourd'hui, il faut naturellement qu'on apprenne aux citoyens togolais que tout ce que Gosson dit là, le travail, la liberté et la patrie doivent être des valeurs que nous cultivons dans le Togo de demain.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. On quitte le sujet, on aborde un autre sujet. C'est bien sûr ce sujet alors du riz avarié déversé à Legbacito, sur un dépotoir bien sûr à Legbacito. Vous avez vu, vous avez écouté aussi le développement, les derniers développements même d'ailleurs de ce fait ou de cette situation, de telle enseigne que il y a Bébé Lomé, quand même, qui a fait son mea culpa pour dire que justement, c'est à travers même d'ailleurs un incident que cela s'est produit. Alors, Uriel, comment vous avez apprécié quand même ce fait, puisque déjà on en avait parlé la semaine dernière et on se posait la question de savoir mais quel genre de société a pu faire cela et que aujourd'hui on en est là.
Pascal, c'est très grave. Qui peut apprécier autrement? C'est un acte très grave. Moi, j'ai essayé de parcourir ce communiqué de la BB que certains confrères ont relayé. Bon, de leur façon, mais c'est gravissime. Et on mentionne même que la destruction a eu lieu en présence d'un huissier. Mais c'est pas comme ça que l'État togolais détruit des produits dangereux pour les humains, non. Quand la police ou la gendarmerie organise par exemple la destruction de la drogue ou tout, c'est aux yeux de tout le monde, c'est aux yeux des médias. L'information est publique. Il n'y a pas cette histoire de... on a détruit ça en présence d'un initié et c'est après avoir vu les malheureuses populations qui sont allées récupérer qu'on prend des notes que moi je qualifie d'ironie. C'est une ironie, c'est une moquerie. Je pense que la BBC s'est moquée de l'État togolais. C'est karma très dangereux. Mais vous avez des produits du genre. Vous savez que ce n'est plus propre à la consommation. Vous ne pouvez non plus l'utiliser pour votre service. Mais il y a une manière professionnelle de les détruire. Vous n'allez pas choisir vous-même ou les détruire en présence de qui vous voulez. Et c'est quand il y a eu problème que vous réagissez. Moi, j'ai dit que l'État togolais est très tolérant. À l'heure actuelle, on devrait même suspendre leurs activités. Parce qu'aujourd'hui, Pascal, vous savez, ce n'est pas tous les types de riz qu'on vend dans les sacs. Nous sommes d'accord. Il y a des riz que nous achetons dans les bols. Mais aujourd'hui, toi et moi, si nous nous rendons au marché de Toti, à Gualepedo, bon, à Sigamé, partout, pour s'acheter du riz dans les bols, qu'est-ce qui prouve que ces riz avariés n'est pas mélangé? Même ceux qui l'ont ramassé peuvent aller en sachet s'ils veulent et nous revendre. Mais en réalité même, cette société doit être traduite. On doit suspendre, on les traduit, ils s'expliquent, on prend les dispositions, on leur donne au moins 5 ans pour se rassurer que tous les Togolais se portent bien. Et si possible, avant de rouvrir. On s'amuse avec la santé des Togolais. Parce que les gens sont allés ramasser puisqu'ils ont faim. Ça, il ne faut pas voiler. Ça, c'est pour démontrer à quel niveau les gens souffrent.
Uriel, quand on a même faim, c'est pas tout chose quand même qu'on mange. Hein?
Mais est-ce que autres, quelqu'un leur a dit que le riz qui se trouvait là-bas...
Mais déjà, sur un dépotoir, allez, ça veut dire que enfin, si c'est en bon état, ça ne peut pas se trouver alors sur un dépotoir.
Pascal, tu penses que les baleines qui échouent, les gens vont, ils coupent pour manger. Les gens retrouvent des animaux morts, ils le décomposent pour faire la charcuterie et puis consommer. Vous pensez qu'ils ne savent pas que c'est ceci ou cela? Non, quand même, soyons francs. On n'a nulle part écrit. Non, il peut se faire que c'est un camion qui passait et... il s'est balancé et puis une quantité s'est déversée.
C'est un dépotoir.
La population. Non, ce qu'on appelle dépotoir, hein. Il y a dépotoir dans dépotoir. Là où ils sont allés, d'ailleurs même, le maire même devrait être la première personne. Monsieur Bolor devrait être la première personne à se plaindre, puisque c'est sa commune. Tu sais, moi, je suis dans cette commune.
Et il a fait sortir un communiqué, je l'ai lu aussi.
Vous avez lu le communiqué, mais le communiqué n'a pas précisé.
Tout à fait.
Le communiqué attire tout simplement l'attention des populations riveraines de ne pas courir les risques.
Tout à fait.
Ils se sont déplacés pour aller sur les lieux. Le maire devrait être la première personne à se plaindre pour demander même la suspension des activités de cette société-là en attendant. Vous savez, je disais que c'est l'image de la pauvreté qui amène aussi, ne me dites pas que si tu as faim, tu dois faire attention aussi à certains produits. Si c'est ça, je t'accorde. Maintenant, l'autre volet, c'est un sabotage de la politique des pouvoirs publics. Moi, je pense que les pouvoirs publics n'ont pas fait cette lecture. C'est pour saboter leurs efforts. Aujourd'hui, cette image est dans tout le monde entier. Cette vidéo circule dans tout le monde entier. Et les gens diront que au Togo, c'est la fin, même c'est sur les dépotoirs que les gens vont pour se nourrir. Alors, de vous à moi, est-ce un sabotage ou pas? C'est un sabotage.
Je sais pas comment.
Donc, si l'autorité publique ne se plaint pas, là, nous, on va dire qu'il y a problème.
D'accord. Alors, Jacques, est-ce que vous avez compris le fait que quand des gens ont trouvé, les populations, bien sûr, ont trouvé l'occasion d'aller récupérer ce riz qui est impropre à la santé facilement, elles se sont allées, se sont rouillées même d'ailleurs là-dessus?
Bon, vous savez, Pascal, c'est quand même un peu triste, l'image que nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas du tout bien pour notre pays. Pour ceux qui suivent un peu la télévision, vous voyez un peu ce qui se passe au Soudan avec la guerre où les gens sont obligés, je vous dis Pascal, obligés de couper les arbres et de chercher les racines pour pouvoir en consommer. Alors que notre pays n'est pas en guerre. notre pays n'est pas arrivé à cet état pour qu'on puisse déverser du riz et que les gens puissent courir et aller en chercher même sur le dépotoir. Moi, je voulais accuser la BB. Ça, il faut qu'on soit chose, il faut qu'on soit sérieux. Elle a dit que pour faire ce genre de décision, il faut le faire dans une nuit profonde. Il faut le faire dans une nuit profonde. Vous ne pouvez pas dire que bon, on va, on déverse et puis on s'en va. Mais ça va créer des problèmes. Pascal, ça crée des problèmes. Moi, je voulais aussi inviter l'État à revoir effectivement le système de taxation au niveau de nos marchés avec nos compatriotes, nos sœurs. Vous comprenez? Il faut que l'État décrète l'amnistie sur effectivement les taxes pour aider nos populations. Aujourd'hui, on nous dit que le bol du haricot est à 3000 par endroit. Le bol du maïs est à 1000 francs par endroit. Et on ne dit rien, on se tait. En tout temps, on nous avait dit que le CPC, c'est ça, non?
Oui, le CPC.
Le CPC.
Le cadre permanent.
Voilà, avait invité le ministre du Commerce pour échanger sur cette question. On nous avait promis, bon, qu'on aura suite, mais jusque-là, rien. J'ai lu dans Liberté, je ne sais pas si c'est la semaine passée ou cette semaine, où on nous parlait du baril, par exemple.
Non, c'est aujourd'hui même.
Ah, c'est aujourd'hui.
Oui,
voilà.
On va en parler tout de
voilà.
suite.
Voilà, on nous parlait du prix du baril, qui a par exemple diminué à l'international. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Je me rappelle quand le ministre Yark était au ministère de la Sécurité. Quand on veut détruire les choses, vous voyez comment ça se passait.
C'est ce que j'ai dit voilà. tout à l'heure.
Il restait là-bas. Oui. C'est-à-dire que tout brûle avant qu'il ne quitte.
Ça, c'est clair.
Vous n'allez pas voir le ministre Yark partir avant que la dernière femme ne s'éteigne. Il reste toujours là-bas. Mais pourquoi on ne peut pas inviter la force publique pour rester là-bas, pour incinérer effectivement ce riz avant que...
Ils n'ont pas incinéré.
Ils ont déversé, ils sont partis. Non, moi, je crois qu'il faudrait que...
Non, ils disent que c'est avant, enfin, quand on l'a déversé, on veut l'incinérer avant qu'il y a cet incident qui s'est
mais
produit.
Pascal, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, hein, vous voyez, par exemple, vous prenez tout homme, les hommes que nous sommes. Il est vrai qu'il est interdit de voir une fille de courir l'attraper. Mais du moins, nos yeux là, quand nos yeux là voient par exemple une femme, on est souvent tenté. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai qu'on ne peut pas aller vers elle en même temps. Mais tout homme est tenté d'aller vers là. Mais vous déversez un truc comme ça. Mais c'est une tentation. Vous êtes en train de tenter la personne. Supposons quelqu'un qui se lève maintenant, qui est au bord du feu tricolore. Elle laisse ses seins dehors. Quelqu'un par exemple qui va là-bas l'attraper. Vous voulez que comment vous voulez qu'on qualifie cette personne-là? Est-ce qu'elle est folle? Ou bien elle est fou? Non! C'est l'autre là qui a provoqué l'homme.
La tentation était là.
Ah, bien sûr, c'est la tentation. Vous déversez les choses. Vous savez que les gens, en voyant ça, ils vont aller prendre. Mais vous dites que non, que vous allez verser, après vous allez aller détruire. Non, ça n'a pas de sens. Mais il faut qu'on se dise la vérité,
d'accord.
Pascal.
Ok. Oui, disais, je ne sais pas, quelle appréciation vous avez fait quand même de ça?
Non, moi j'ai noté tout simplement dans cet incident que nous avons fait au Togo. Nous avons vraiment faim. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a qu'à parcourir un peu les marchés de Lomé, autour de Lomé, et même jusqu'à chez mon ami. Et vous comprendrez qu'on a faim. Mon ami Uriel. La vie est dure au village.
La vie est
compliquée partout. Très. Oui, très, très, très compliqué. Vous savez combien on vend le bol de maïs maintenant? Ça dépend, hein. À des endroits, quand on vous le vend à 1000 francs, la personne est très généreuse. C'est au-delà de 1000 francs un peu partout, 1200 à par endroit. Et Jacques parlait du bol du haricot, et il disait 3000. Mais c'est cette semaine, c'était parti à 3500 par endroit, 4000 même ailleurs. Donc, vous voyez dans des conditions pareilles, les gens trouvent du riz. Et ils ont faim. Vous voulez que des gens réfléchissent avant de manger?
Ce n'est même pas écrit à ne pas ramasser.
Mais vous voulez que des gens réfléchissent? C'est vous qui parlez de dépotoir. Hein. Les gens ont trouvé le riz. Vous avez trouvé
le dépotoir.
Des gens ont trouvé le riz. Eh bien, voilà. Si des gens ont pu manger la semaine dernière par endroit, c'est grâce à ce riz. Et moi, je voulais saluer plutôt... peut-être qu'il peut y avoir des sanctions disciplinaires où on peut corriger un certain nombre de choses, mais l'honnêteté de la BB d'avoir reconnu, parce qu'il y a eu des incidents pareils, on n'a jamais vu les auteurs, on n'a jamais connu les auteurs.
Non, ici, ils sont vus, hein, ils sont déjà vus avant qu'ils ne réagissent.
Oui, donc, mais, oui, voilà. Mais ils peuvent garder le mutisme. Ils peuvent également garder le mutisme. Ils ont été vus, mais lorsque le communiqué...
Mais est-ce qu'à un moment donné, ils n'étaient pas obligés de s'exprimer là-dessus? Parce que pratiquement, les médias, les organisations, alors, de consommateurs, mettaient la pression.
Les gens avaient l'information.
C'était normal. Mais là où moi je dis qu'il faut quand même saluer leur... Oui, là où je disais qu'il faut saluer leur courage... Oui, mais attendons, c'est pas je connais rien de cette société, je vais pas, c'est pas pour les défendre. Il y a eu un communiqué public conjoint de trois ministres qui était paru avant leur sortie. Sans avoir cité la société, on dit on fait des enquêtes.
Tout à fait.
Alors que tout le monde a déjà vu qui était l'auteur du déversement. Et si un communiqué public sort pour nous dire on va faire une enquête pour trouver la société, et que l'enquête n'a pas encore abouti, et que le lendemain, le gars même se présente, bon, c'est moi l'auteur. Non. Mais c'est pas du courage, ça. On aurait pu attendre et que les enquêtes peuvent aboutir à d'autres choses également. Et donc, aujourd'hui, on sait que c'est la bébé qui a déversé du riz avarié. Et bon, voilà, tout ce qui en est entouré. Et Uriel parlait de sabotage de politique. Oui. Non, on ne peut pas dire qu'on sabote la politique.
Non, c'est une forme de sabotage.
Si nous avons fait, c'est une réalité. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne déverser du riz avant qu'on ne sache qu'on a faim. On a faim. Donc, c'est pour ça que nous interpellons à chaque fois les autorités de pouvoir agir sur des leviers. On a même parlé de ce sujet de la vie chère il y a quelques jours. C'est une réalité connue et par les gouvernants et par les acteurs politiques un peu partout. Ils en avaient même discuté dans un cadre. Donc, comment pour confirmer leur discussion de ce qu'il faut accélérer des mesures à prendre, il y a du riz et que dans les marmites à l'Egbacito,
Une seconde. Didier, je voulais que tu comprennes une chose. Vous savez, cela pourrait être une très belle publicité pour la BB si, avant la destruction, elle rendait publique l'information pour dire nous avons des produits qu'on ne peut plus utiliser pour la fabrication de nos boissons. À telle date, ces produits-là seront détruits à tel endroit. Je vous assure que ça serait une très belle image pour la BB. Aujourd'hui, à mon avis, il n'y a même pas de situation atténuante. Il n'y a même pas à parler de courage. Ils ont déjà causé vraiment des dommages. Je vous dis que dans un autre pays, cette structure allait être suspendue pour un certain nombre d'années. Le temps de s'assurer que les Togolais dans leur ensemble se portent bien, qu'ils ne sont pas malades à cause de ces riz avariés. C'est ça.
D'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Mais le mal est déjà fait. On va sanctionner bébé, mais ceux qui ont mangé le riz ont déjà mangé. Les gens en ont encore dans leur cuisine, ouais, dans leur chambre. Ils attendent peut-être. Là, on parle ici, des gens ont commencé par faire le feu pour ce riz. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer ces riz? On ne peut plus les récupérer. Les gens ont déjà mangé.
Il y a des gens qui ont déjà consommé cela.
Non, ils n'ont qu'à boucler les quartiers.
C'est fini.
Oui. Gosson, c'est vrai qu'au-delà de cette question de vie chère, puisqu'il y a certains confrères quand même qui ont souligné cette question de vie chère maintenant, et vous titrez à la une alors de votre journal Liberté, carburant, pourquoi depuis 2 ans le gouvernement refuse-t-il de revoir les prix à la pompe? Vous vous interrogez.
Bon, Pascal, si j'avalais ça, là, je ne m'appellerais plus Godson. Mais confrère ne peut pas se pencher sur ce sujet et toi, tu vas m'en priver. Je refuse.
Non, mais vas-y.
Pour juste avoir échangé avec le secrétaire général du Saint-Fort,
oui,
j'ai pu apprendre que Bébé Lomé fait partie d'un groupe international. Est-ce que ailleurs, c'est cette manière qui procède pour destruction des produits? Est-ce qu'il n'y a pas un centre d'enfouissement à Képé? Parce qu'un dépotoir, ce n'est pas un lieu de destruction. Le bébé ne peut pas qualifier d'incident ce qui s'est passé. Juste pour brosser tout, résumer, dire que la société a fauté. Mais il fallait cette faute pour que les gens réalisent que les populations... Enfin, Et parlant de carburant, Pascal, je suis venu avec un bidon. Non, mais ça a l'air de faire rire, mais...
Oui, mais comment ça... Justement. Avec, justement, je vous ai vu avec...
je suis venu à l'émission à moto. D'abord, en partant en moto, je vais passer chez les vendeurs de rue. Aujourd'hui, quand tu veux prendre à partir de 5 litres, c'est 550. Ça veut dire que les 5 litres te font 2750. Alors que dans les stations, les 5 litres te font 3500. Pascal, moi je suis président des journalistes pauvres, très endettés. Donc tu connais ma situation.
Finalement, il semble que c'est toi seul qui es dans ce...
Non, on est nombreux.
Voilà. Donc ce que je
veux dire... Là, on ne paie même pas d'adhésion. Donc
ici,
c'est intéressant.
Ça, je vais remplir le bidon de 5 litres pour aller mettre dans le véhicule.
Mais c'est frelaté, dit-on.
C'est quoi on appelle carburant frelaté? Est-ce que depuis qu'on procède, on saisit là? Est-ce que vous avez déjà vu l'essence brûler? Non. Mais pendant que vous parlez, je ne.
Non, tu ne peux pas dire que tu as en même temps que tu veux aller pour acheter le carburant pour mettre dans ta voiture.
Les amis, vous n'allez pas me dire que parce que j'ai une voiture, je suis riche. Je suis désolé.
Tu es riche.
Mais à ma fille, j'apprends que avoir un mois de déplacement, c'est un bien de première nécessité. C'est tout comme manger le matin, à midi et le soir. Moi qui habite à Davier, chaque fois que j'utilise la moto, c'est temps-ci je n'utilise que la moto parce que la situation est très corsée. Le véhicule, donc Jacques, tu veux me dire que tu es riche alors?
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Moi, je suis pauvre et j'assume ma pauvreté. Si à ce jour, à l'international,
oui,
le tarif était à 100. À près de $111.
Oui.
C'était en juillet 2022, quand les autorités ont porté le prix à la pompe à 700 francs. Pas grand-chose à dire là-dessus. Mais à ce jour, de l'eau a coulé dessous les ponts, du temps a passé. Vous allez sur le site prixdubaril.com, vous verrez que le baril aujourd'hui est en dessous de $80. Faites la soustraction. En 80 et 111, vous réaliserez qu'il y a quelque chose. Que fait le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers? C'est SFPPP, qui est censé réguler les prix des produits pétroliers. Il y a péril en la demeure. Finalement, j'ai l'impression que l'État encourage la multiplication des vendeurs ambulants. Parce que il y a de moins en moins d'usagers qui vont vers les stations. Ce qui fait que ça donne des idées à des gens qui initient aussi cette activité pour jeûner debout. Parce qu'eux aussi, ils ont fait pour en savoir davantage. Liberté vous attend.
D'accord. Quelle liberté vous attend? Jacques?
Non. Je crois que...
Quand tu auras fini de rire, il faut répondre.
Non, ce que je voulais dire à mon ami Gosson, mon ami personnel,
oui.
C'est-à-dire que, vous savez, quoi qu'on dise, Pascal, c'est vrai que c'est dur, ça il faut le reconnaître. Nous sommes conscients. Parce que quand vous avez des familles, vous avez des enfants, vous voyez l'entourage, on sait que c'est difficile. Le fait même que les gens aillent prendre du riz sur un dépotoir, ça
en dit long.
Voilà, ça en dit long. Vous voyez, et quand vous voyez un peu aujourd'hui, Pascal, moi je me suis à une fois, j'ai fait l'exercice là, sortez par exemple un jour, vers 4h30, vous allez vers Toblé, vous allez voir ce qui se passe. Les compatriotes font autostop, les véhicules de sable là, c'est ça qu'ils prennent pour aller au port, pour pouvoir trouver quelque chose le matin et le soir. Non, c'est pour vous dire que c'est difficile. Mais quand même, vous savez, comme je l'ai dit, si quelqu'un qui a dit, je parle sous le couvert du pasteur, que s'il prend soin des oiseaux, ce n'est pas nous les hommes qu'il va abandonner. Donc je voulais encourager mon collègue, mon
ça
confrère,
c'est, ça, voilà,
pour lui dire que non, que si quelqu'un a pris soin des oiseaux, C'est pas à nous, être humains,
mais
qui va
cette histoire de carburant, voilà. Il faut que vraiment, oui. vraiment, cette histoire de carburant.
Oui, sur le carburant, il faut que le gouvernement sorte,
que le gouvernement réagisse. Vraiment sorte oui. Par rapport à ces prix.
Qui est la vérité des prix.
Tout à fait. Mmh. 700 francs, je vous assure.
C'est énorme, c'est exorbitant.
C'est un facteur qui pèse sur tous les Togolais.
Tout à fait. D'accord. Nous allons en arrêter là hein, et donner la parole à nos auditeurs puisqu'ils s'impatientent à rentrer aussi en ligne, à participer à ce débat avec nous. Nous faisons un clin d'œil à nos partenaires. Nous revenons juste après.
Canal FM. J'adore.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce lundi et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Allô.
Bonjour.
Bonjour.
Votre nom, s'il vous plaît?
C'est Yao depuis Mété.
Ah, monsieur Yao depuis
Mété. Vous avez appelé là devant, mais vous n'avez pas Yao de Mété.
Non, mais nous avons cité pratiquement, en fait. Nous avons dit tout le monde à part après.
Voilà. C'est toujours Yao de Mété. Bon, je vous dis en même temps, le secret, bon, alors, je suis pour le secret du téléphone. C'est un sabotage qui a été fait dans notre fief. Dans notre fief a été fait parce que de l'humilité, ils ont sali notre image de l'humilité. Parce que c'est nous qui avons fait et on amène les choses, on jette là-bas. Donc c'est un sabotage. Quoi, j'appuie sur le journaliste qui dit que c'est un sabotage. C'est pour ça qu'il avait dit dans votre journal là, que le jour là, que vous avez fait, il a dit que le leader de la sécurité n'a pas démissionné. Il doit démissionner parce qu'il y a deux sujets à faire. Dans la semaine, là, il nous a amené. Maintenant, la bébé, il a fait les enquêtes, il a amené la bébé. Il reste ceux qui ont frappé. Il reste ceux qui ont frappé. Il y avait déjà dit qu'il n'a pas démissionné. Donc, c'est à cause de ça, il a amené les hommes de bébé. Il reste maintenant les hommes, les frappeurs. Donc, il nous dit que c'est un sabotage qui est dans notre fief. Dans notre fief, c'est lui. Pourquoi ils n'ont pas amené ça? Ils étaient ça vers Sokodé. Ou bien aller vers dans les caisses des autres. Et c'est dans notre fief de lui. Ils sont venus pour salir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
D'accord. Merci beaucoup, M. Yao, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, M. Pascal.
Comment vous allez?
Je vais bien.
D'accord. Votre nom, c'est?
M. Kossi de Sagado.
Ah, M. Kossi depuis Sagado. M. Kossi, allez-y.
Je voudrais dire, j'avais interpellé le ministre de la Sécurité pour faire pour nous présenter les frappeurs que je dis. Il ne l'a pas encore fait. Je veux nous rappeler ça. Que nous attendons patiemment qu'ils nous présentent à la télé ceux qui ont commis cette bêtise-là. Ceux qui ont sali le nom de notre pays à l'extérieur. Vous savez, c'est pas ça. Entre-temps, il y a des jeunes qui s'en prenaient à quiconque veut insulter les Togolais. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur TikTok.
Oui, oui.
Je... que la bêtise là est commise. Ces jeunes-là, ils ne sortent plus. Vous avez vu, un Nigérien avait dit que les Togolais là, vous êtes pris. Les Togolais s'en sont pris à lui. Depuis la bêtise de l'autre fois, ces jeunes-là ne sortent plus. Est-ce que nous sommes pires ou que nous sommes meilleurs? Il faut que le ministre de la Sécurité arrête ces bêtises-là et qu'il nous les présente. Par rapport au riz, vous voyez, le journaliste a su bien le dire, c'est un sabotage. C'est un sabotage de la politique du chef de l'État. Mes frères, comment est-ce que des gens peuvent aller ramasser du riz sur haut de couteau? Ça, là, même jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre la raison. Bon, ceux qui sont allés ramasser le riz là-bas, moi je vous dis, si même on déposait le riz là sur des vaisseaux, les gens vont aller prendre. La BP qui a déposé le riz au dépotoir. Maintenant nous sommes en train de critiquer. Est-ce que la BP nous écoute? Parce qu'ils ont les deux pieds sur terre, non? Ils ne veulent pas faire ce qu'il y a lieu de faire. Quand les gens vont commencer à mourir maintenant dans le quartier là-bas, et ils vont dire que c'est eux. C'est eux qui sont au pouvoir. Je vous en prie. La BB n'a qu'à tout faire pour assumer la responsabilité de ce qu'ils ont fait là. Ils ont voulu tuer les Togolais. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Monsieur Kossi, pour votre intervention. Derrière Monsieur Kossi, on a un autre auditeur. Allô?
Allô?
Bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, mon directeur Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, oui. Je vous prierai de voir le technicien dès que la ligne est libre, qu'on nous laisse sans plus, si nous perdons nos unités, c'est mieux que de ne pas avoir la ligne.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci, le message est passé.
Faites pour le pays. Et moi, je ne veux parler que ce qui concerne l'hymne. Vous savez, il faut reprendre les orchestres avant de rentrer sous le mât qu'ils jouent. Et les élèves se mettent en rang et rentrer par rang. Arriver en classe, il faut que le maître, chaque maître ait un temps pour le chant, pour l'hymne, par jour, à la classe de chant, et chanter l'hymne. Deuxièmement, ce qu'il y a pour les chants, si vous avez dit, c'est grâce à vous que nous apprenons que ceci est fait, ceci n'est pas fait. Mais pourquoi ils ne vont pas diminuer le carburant? Il faut qu'ils le fassent. Concernant le riz, quelqu'un a parlé de ce côté. Est-ce que c'est sûr parce que vous voulez qu'on amène du riz à varier? Et ça, là, oui, bon, le jeter. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
C'est Monsieur Maouto. Oui.
C'est Monsieur Maouto.
Oui, allez-y.
Oui. Par rapport au riz, par rapport au problème du riz, là, ma question à Monsieur Jacobi, vous ne voyez pas qu'il manque une éducation citoyenne à cette nation qui fait cette chose-là? Parce que même si on en fait, on ne peut pas manger n'importe quoi. Ce qu'on appelle la faim, moi je l'ai connu, mais je ne peux pas manger n'importe quoi. Le riz qui est déposé dans du dépotoir, les gens sont partis ramasser pour manger. Et encore, de pire encore, le chef du parti au pouvoir. Parce que les députés ont dit que c'est leur fief. Vous ne voyez pas donc qu'il manque une délégation pour ces gens-là. Merci, bonne émission.
Merci, Monsieur Mouto, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
Oui, Nyamavo, chef.
Allez-y.
Oui, j'entends trahison. Ce mois-là, vraiment, a fait beaucoup de trahison. Hein. Imaginez, là, il y a un Amérique qui a devant les gens, les a frappés. C'est une trahison de la politique aussi. Hein. Ces gens-là, dont on ne connaît pas leur trigogine, je ne sais pas si c'est Wagner du Togo. Nous sommes ces deux autres-là, on ne connaît même pas leur chef d'orchestre. À propos du riz, ça peut dire, hein. Vous voyez qu'on dit que le Japon a donné du riz, tout ça là, on ne voit même pas ça au marché. C'est les sociétés là qui stockent au mois des campagnes, on fait vent, on connaît le président du parti au pouvoir, après le reste, au lieu de donner ça au parti au pouvoir, de partager les gens à manger un peu tout, on laisse ça pourri, les gens meurent de faim. On va, on appelle les forces de venir au député pour en chercher. Ça, c'est une honte. C'est une honte de la République. Je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Nyamavo, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va très bien.
C'est M. Johannes.
Oui.
Allez-y.
C'est aberrant qu'on puisse parler de courage. C'est vraiment aberrant. J'en perds les mots, en fait. Je ne sais pas comment on peut parler de courage de la part de la brasserie. Il n'y a que, je ne sais pas dans quel pays ce genre de choses peut se passer, puis on va féliciter le courage de la société. Mais c'est désolant, en fait. C'est désolant. Ce courage-là était où? En fait, cette société avait l'habitude de faire cela. Parce qu'il faut qu'on se le dise. C'est une habitude de la société. Et le jour où les médias, certains médias ont interviewé les gens sur place, ceux qui allaient ramasser ces riz-là sur place, les gens l'ont dit. que ce n'est pas la première fois. Que pas plus tard que quelques jours, la même scène a eu lieu. Et aujourd'hui, comme il y a une caméra qui a filmé ça et posté sur les réseaux, l'affaire a pris une autre tournure. Et aujourd'hui, on ose nous parler de courage de la brasserie. Mais c'est pas sérieux, je suis désolé, c'est pas sérieux.
D'accord.
Quand le gouvernement a sorti, les trois ministres ont sorti ce communiqué, sans nommer la société. Mais je me dis, c'est une complicité avec cette société-là. C'est une complicité parce que c'est pas normal que le gouvernement sorte un communiqué et cache le nom de la société alors que tout le monde, presque tout le monde savait de quelle société il s'agissait. Et après, dans les coulisses, je ne sais pas ce qui s'est passé, la société sort pour dire c'est moi, et puis on lui dit, on l'encourage, on lui dit félicitations, c'est courageux de votre part. Bon.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Johannes. Je pense que nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Bien.
D'accord. C'est Monsieur Kofi.
Oui, Kofi.
Allez-y.
Oui, je suis ahuri, hein, qu'on parle de série aujourd'hui comme ça. C'est fini de demander, de poser la question aux gens de cet arrache-là. Eux, ils appellent ça des potois de manne. Parce qu'on jette souvent des riz là-bas. Même du côté de la zone portuaire aussi. Ça va là-bas. C'est pas que la brasserie. Hein? Même du côté du port, il y a du riz qui va là-bas. Hein? Donc, c'est pas nouveau. Hein? C'est pas parce qu'aujourd'hui, la caméra filmée, c'est sur TikTok, c'est des riz que les gens mangent là-bas. Depuis. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Merci.
D'accord,
c'est
merci.
Pas nouveau.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, c'est le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau. Jacques.
Non, je crois que si ce que Kofi dit est vraiment avéré, il faudrait que les structures au niveau du ministère du Commerce, du ministère de la Sécurité et les mairies, il faut que ces structures-là fassent leur travail. Est-ce qu'ils sont en complicité avec ces sociétés? Mais c'est grave, ce que l'auditeur vient de dire. Si c'est vraiment avéré, c'est très grave.
Même si ça s'est limité à ce qui s'est passé.
Même si ça s'est limité à ce qui s'est passé, c'est déjà grave. Qu'on dise que c'est ce que les sociétés font, Pascal. Mais c'est grave pour ce pays. Moi, j'invite une fois encore de la vigilance au niveau du ministère du Commerce, le ministère de la Sécurité et les mairies. Parce qu'aujourd'hui, les dépotoirs là sont contrôlés par qui? C'est les mairies qui contrôlent ces dépotoirs. Et comment ces dépotoirs sont gérés? Comment les gens là ont fait pour rentrer là-bas pour chercher du riz sans qu'on ne puisse alerter? Et il a fallu que quelqu'un d'autre filme pour balancer. Je crois qu'il y a vraiment des questions à se poser. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement demande des comptes et qu'on situe les responsabilités. Si c'est vrai ce que l'auditeur l'a dit, vraiment, moi, j'ai dit qu'il faudrait que le gouvernement puisse creuser une fois encore pour aider quand on parle de la santé de nos populations. Aujourd'hui, on dit qu'il y a le choléra. Qu'est-ce qui cause ce genre de choses? C'est ça le problème. Il faut aller voir. Moi, je crois que ce que l'auditeur là vient de dire, c'est grave. Donc, il faudrait que les autorités prennent les taureaux par les cornes.
D'accord. Uriel?
Alors, moi, je suis très heureux que ceux qui nous écoutent ont très bien compris le sujet. Ils ont compris que la population est en danger par rapport à l'acte posé par la BB et qu'il fallait quand même l'interpeller même jusqu'au niveau de la justice. Je pense que si la BB a réagi en sortant ce fameux communiqué, c'est juste pour qu'on ne qualifie pas son acte de criminel par la suite. C'est pourquoi ils ont réagi.
Que c'est pour se dédouaner.
Pas assez dédouaner, mais ils n'ont pas voulu quand même que ce soit les services de renseignement, parce que là où ça allait, on allait dépasser même l'étape de enquête et tout, mettre le renseignement derrière. Ils n'ont pas voulu que le renseignement sorte lui-même l'information pour dire que voilà telle société. Donc c'est pourquoi ils ont devancé pour dire que c'est eux qui ont fait. Sinon, qu'est-ce qui les empêchait de déclarer l'acte qui devrait être posé au préalable? Là, c'est là même que la question se pose. Si vous voulez opérer une action pareille, la destruction d'un produit qui n'est plus adapté à la consommation, vous annoncez ça publiquement. Et cela devient même une belle image pour vous. Mais aujourd'hui, le contraire s'est posé. Mais je pense quand même qu'il faut prendre la question là, sous un angle plus sérieux que ça pour protéger les Togolais.
D'accord, oui.
Mais si, c'est bizarre, il y a un auditeur qui s'étonne de ce que j'ai parlé de courage. Vous savez...
C'est Johannes,
hein, et il disait que ce n'était pas sérieux de ma part. Je pense que lui-même n'est pas sérieux. On a vu des sociétés dans ce pays, à Dalavé, un peu partout, on a versé du poulet, y compris pas très loin de l'Egbacito où on parle aujourd'hui. Il y avait des poulets, les gens ont déterré pour aller manger. Mmh. Il a une fois quand il est... Oui, mais est-ce que je parle des faits, hein? Mmh. On avait déversé des poulets avariés. Les gens ont déterré à Dalavé, l'Egbacito, commune de... avait de pas non, très loin de...
C'était tout ça.
Oui, mais les gens ont déterré les poulets là pour aller manger. Monsieur Johannes a une fois connu le nom de cette société. Monsieur Johannes a une fois vu un communiqué de ces sociétés-là dire que nous sommes auteurs de la destruction des poulets que les gens ont déterré pour aller manger. Est-ce qu'il voit les bières de bébé? Il sait comment on fabrique les boissons là-bas à partir du riz. Il sait quel riz, quelle qualité de riz a servi à construire, à fabriquer.
Non, il a juste combattu ce mot courage.
Non, mais oui, mais ce mot, combattre ce mot sans comprendre le développement que je faisais, ce n'était pas sérieux. Il fallait qu'il écoute tout mon développement pour dire que j'ai dit, il y a un communiqué officiel qui est sorti avant la sortie de la bébé. Le communiqué officiel aurait pu déjà dire le nom de la société. Le gouvernement n'a pas eu le courage de dire le nom de la société. Et la société vient se présenter elle-même. Quitte après qu'on prenne des mesures pour la sanctionner et tout. Je n'ai pas dit que ce que bébé a fait, c'était bien. J'ai dit que c'était condamné à condamner et il faut qu'il y ait des mesures et que, justement, ça également prouve d'autres problèmes que nous avons en tant que Togolais. Ce n'était pas l'acte qui a été posé que je salue de courage, d'accord. Mais... Cette sortie, alors que le gouvernement est déjà sorti, n'a pas cité le nom de la société.
Merci Didier. Et Gosson?
Oui. Aujourd'hui, après qu'on aura condamné la bébé, il faut qu'on tourne le regard vers le gouvernement, plus précisément les services d'hygiène. Parce que quoi? En matière de destruction de produits alimentaires, il y a une procédure. Voilà. Et il revient au service sanitaire de faire comprendre à tous ceux qui vendent les produits alimentaires les étapes à suivre et surtout requérir la présence d'un agent de santé avant de procéder à la destruction. Ça, je passe. Je reviens encore sur la cargaison d'un milliard de francs CFA de riz Kennedy Round que le Japon nous a offert en août. Nous sommes en octobre. Tu vas dans les magasins d'Ansat, ce riz n'est pas disponible à ce jour. Je précise que les 30 kilos se vendent à 9500. Mais quand tu y vas, c'est le riz de collier dont les 25 kilos sont vendus à 17500. C'est prohibitif. J'invite les autorités à qui le Japon a offert, a donné le riz pour amoindrir les souffrances des populations, de mettre à disposition des populations ce riz. Nous en avons besoin.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson, qui est en manière d'être passé alors dans cette émission. Notre heure est déjà avancée. Uriel, merci à vous d'être passé. Jacques Djakouti, merci. Didier Assoba, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous qui nous avez appelés aussi, grand merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Losso. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.